La 23e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Ça se termine aujourd'hui du côté de Bonn, en Allemagne. Il y a eu plus de 25 000 experts environnementaux, négociateurs aussi de plusieurs pays qui se sont rencontrés. Qu'est-ce qui en sort de cette conférence-là? Est-ce qu'on est aussi mal pris qu'on le dit? Jérôme Duprat, prof d'environnement à l'Université du Québec en Outaouais, est avec nous. Jérôme, merci d'être là.
Bien, merci à vous. Bon matin.
Merci. Bon matin. Matin. Écoute, Jérôme, ça existe-tu, ça, l'environnement? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui ressort de la conférence de Bonn? Je savais pas que... Je sais que l'ONU chapeaute de temps en temps. C'était la 23e édition, on vient de le dire. Qu'est-ce qui en sort? Est-ce que le Canada était leader là-dedans? On a-tu des nouveautés qui sortent?
Oui, bien, en fait, ces rencontres-là, la plus connue, c'est Kyoto en 97, où on est sur pied de protocole. Donc, à chaque deux ans, on se voit pour faire un suivi de la Convention sur les changements climatiques signée en 1992. Donc, en 2015, c'était la conférence de Paris qui a été très, très marquante. Peut-être la deuxième plus connue après celle de Kyoto.
Puis il y a eu Copenhague un petit peu avant ça aussi.
Copenhague. Ouais. Puis là, Bonn, en fait, c'est un peu le suivi de Paris. On se dit, bon, deux ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Parce que l'engagement majeur qu'on avait pris à Paris, soit d'essayer de réduire nos émissions progressivement pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Bon, on se dit, est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'on a pris le bon sentier? Évidemment, depuis deux ans, il y a eu de la géopolitique majeure, notamment aux États-Unis.
Ouais, avec Donald Trump qui est arrivé.
Trump s'est retiré, qui a signifié son...
Sa volonté de retirer.
Oui, parce que dans les faits, ça prend plusieurs années afin de pouvoir se retirer du protocole de Paris. Donc, les États-Unis étaient quand même là, mais plutôt que d'avoir l'effet leader que Obama avait eu en signant des ententes bilatérales avec la Chine, bien, lui a amené une délégation faisant la promotion des énergies fossiles. Donc, évidemment, deux poids, deux mesures. Donc, évidemment, ça a été un frein, puis l'enthousiasme qu'on avait vécu à Paris... On s'est rendu compte que ben il y avait pas le même engouement puis il fallait refaire un peu quelques relations. Et de l'autre côté, quand on a regardé les données scientifiques, on s'est aperçu que finalement la tendance continuait là à se dégrader.
Mais là, excuse-moi, mais on parle encore un peu de géopolitique. Quand le président des États-Unis se désengage de même, il y a un leadership qui reste vacant. Est-ce que quelqu'un d'autre le prend? Est-ce que quelqu'un d'autre peut le prendre? Parce que je lis ce matin, il y a quand même 20 pays qui ont annoncé la création d'une alliance, entre autres la Grande-Bretagne, le Canada, le Mexique, concernant le charbon. Y a-tu quelqu'un qui se dit, ben regarde, vous êtes pas là, tassez-vous, nous, on va faire les affaires autrement ou ça se peut pas?
Oui, mais même au niveau national, ça a été vraiment repris par les gouverneurs de certains États. Jerry Brown en Californie, des maires et mairesses de villes. Il y a le maire de Los Angeles.
C'est vrai, c'est vrai.
Ils ont créé une alliance. Il y a 11 villes, 11 grandes villes. Ça a été mené par la mairesse de Paris. Ils se sont dit, dans 12 ans, on est des villes sans émissions. Et même à Paris, c'est aucune voiture avec moteur à essence.
En quelle année, ça?
En 2030, dans 12 ans.
Dans 12 ans, plus d'auto-essence à Paris. My God, c'est audacieux.
Donc, évidemment, comme tu dis, il y a un leadership qui se reprend, mais ce que disait le gouverneur de la Californie, il dit même si on fait tout ce qu'on peut à l'échelle des États, des villes, c'est quand même seulement la moitié des émissions qu'on peut aller toucher dans nos jurisprudences. Là.
Okay. On a 15 000 scientifiques qui ont co-signé une lettre vraiment alarmante qui dit, en gros, qu'on va tous crever. Est-ce que c'est vrai?
Non, mais sérieux, c'est pas ce qu'ils dépeignent.
Oui, mais en fait, il y a des données qui sont sorties cette année. Puis en 2016, la concentration de gaz carbonique dans l'air était au-dessus de 400 particules par million. Mais ça nous dit surtout que ça n'a jamais été aussi élevé que depuis 3 à 5 millions d'années, alors que le niveau des mers était de 10 à 20 mètres plus élevé. Donc, c'est ça. Évidemment, quand on a une concentration de gaz à effet de serre, l'action n'est pas immédiate. C'est pas l'année suivante que l'ensemble des mouvements géomorphologiques, tout ça, se passe.
Se manifeste, oui.
Mais on a quand même dans l'atmosphère une concentration qui est très, très délétère pour notre qualité de vie, pour l'ensemble de la biodiversité.
Je présume que pour faire l'effet contraire, ça prend autant de temps... pour améliorer les choses?
Il y a différentes possibilités pour séquestrer ce carbone-là, mais il faut les mettre en place immédiatement.
Mais concrètement, ça va faire quoi dans nos vies? Je veux dire, la végétation va mourir, il va avoir... parce que là, ça a l'air assez alarmant.
Ben c'est ça. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment une tendance dans les décennies qui vont venir. On pense à 2050, mais juste actuellement... Il y a les réclamations des assurances pour les inondations. Oui. À la fin des années 90, il y avait une moyenne canadienne de 3 milliards par année. Et actuellement, on est à 6 milliards. Fait que déjà, on est en train de vivre les impacts des changements climatiques. Donc, ce que disent ces 15 000 scientifiques, c'est qu'on va les vivre de plus en plus, à plus forte intensité,
en
à plus forte fréquence. Et ils disent, on est vraiment à minimum une question de renverser la tendance. Donc, il est encore possible, en changeant la géopolitique, les grands engagements, les décideurs, mais aussi dans notre quotidien.
Il y a des gens qui annoncent la fin du monde comme ça, là, souvent on pense à des sectes ou à des... Et là, quand 15 000 scientifiques le disent et que ça a l'air sérieux, ça se peut-tu que quand même il y a des freaks qui disent... Ah non, 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 c'est encore de l'alarme, être alarmiste pour rien. Est-ce qu'il y en a qui diminuent ça?
Oui, ben je pense qu'il y aura toujours des voix opposées à ça. Mais donc ça, comme décideur, il y a une réalité à prendre en compte. Là. Donc on a du développement économique, il faut répondre à des besoins de société. Mais les scientifiques, eux, n'ont pas ces précautions à prendre. Eux regardent des données, regardent les tendances, les modèles, puis nous disent ouvertement vers où on s'en va. Donc, quand 15 000 scientifiques signent une lettre en disant « Regardez la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère », on n'a jamais vu ça depuis 3 millions d'années. C'est une situation très, très grave. C'est un peu de faire une passe sur la palette à ceux qui ont le pouvoir d'agir. Donc ça, c'est à nous tous et chacun, mais c'est aussi à ceux qui ont un petit peu plus de levier. De dire, mais regardez, là,
la science le dit, ben, voilà, c'est clair.
Quand on est malade, on ne va pas chez notre garagiste.
Mais mesuré. Tu l'as dit juste avant d'aller en circulation qu'on est à moins une pour ce qui est d'inverser la tendance, mais est-ce que tu y crois que si mondialement on réussit à faire les bonnes affaires, on peut encore inverser la tendance ou tu crains maintenant plus que jamais qu'il soit déjà peut-être trop tard puis que le moins une qui est annoncé soit finalement un et une?
Non, mais en fait, il y a plein de... Déjà, l'an dernier, il y a eu plus d'investissements dans l'énergie solaire que dans les énergies fossiles. Donc, on voit que les outils sont là. On est capable... Je ne sais pas s'il y en a ici ou à l'écoute, qui ont vu le film « Demain ». Un film qui nous montre les 1000 possibilités de transition écologique, de pouvoir garder le même niveau de vie, mais en ayant beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Donc, les outils sont là. C'est beaucoup une question de volonté individuelle, de volonté politique. Puis ça, ben, l'avenir n'est pas écrit. On verra quelle tendance ça peut prendre.
Mais j'ai l'impression qu'on est toujours timide, puis on fait jamais l'affaire qu'il faudrait vraiment faire. Toi, comme scientifique, Jérôme, demain matin, t'as tous les pouvoirs. C'est quoi que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour vrai, même si c'est drastique là, dans notre oreille, je veux t'entendre là-dessus, parce que j'ai toujours l'impression que c'est le résultat d'une négociation et que c'est timide comme mesure qu'on prend, puis que c'est des petits pas à chaque fois qu'on fait, même si on avance. Là.
Ouais, ben en fait, c'est ça. Tout changement drastique, je pense, s'accompagnerait d'impacts sociaux, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a une transition.
Tu ferais pas un changement drastique.
Ben, c'est parce qu'après ça, les gens suivent pas, puis c'est trop malin. Je pense qu'il faut vraiment collectivement reconnaître cet impact-là, puis essayer de encore tous ensemble.
Je te demande ça pour faire une image. Moi, je fantasme souvent. Je me dis pourquoi qu'une journée par semaine, on ferme pas toutes. T'as une journée par semaine. Tu sais, moi, quand j'étais petit, le dimanche, on n'allait pas faire l'épicerie. C'était même des fois une journée plate le dimanche. Fait que je me dis, si j'étais un scientifique, il y a une journée par semaine, il n'y en a pas d'auto qui se promène, il n'y en a pas d'usine qui vire, il n'y en a pas de... Partout au pays, mettons, ça aurait un impact, je pense, sévère. Ça serait 52 journées dans l'année. On le voit dans des villes, il y a des numéros de plaques pair ou impair qui vont pas dans le centre-ville pour limiter le trafic. Pourquoi qu'on n'en prend pas une mesure de même? À un moment donné, se dit, hey, on est en danger, on ferme tout, une journée par semaine, pendant un an, pendant deux ans, puis on verra après. Je suis sûr que ça aurait un impact. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, complètement.
C'est drastique. Là,
juste bien. Arrêter d'abattre des arbres aussi. Là, on abat des arbres, des fois, pour rien. C'est comme un peu... Moi, je constate que, tu sais, je vais prendre l'avion plusieurs fois par année, ben, acheter des arbres pour compenser pour ce que tu...
L'empreinte...
Toutes des affaires.
Mais justement, il y a un article qui a attiré mon attention. C'est dans la prestigieuse revue Science, publiée en juillet dernier. C'est deux scientifiques qui ont pris l'ensemble de la littérature scientifique, des documents techniques, puis ont dit, bon, ben, qu'est-ce qui, au niveau individuel, a le plus d'impact pour réduire notre empreinte carbone? Puis, donc, ils disent le transport en commun, c'est bien recyclé, mais finalement, il y a quatre solutions qui vraiment se démarquent. Il y en a deux au niveau, justement, du transport. Puis là, c'est pas d'en faire un petit peu moins, c'est d'essayer de plus avoir de voiture. Donc, d'utiliser vraiment le transport en commun.
Boy,
donc,
hein.
Juste faire une référence, on émet en moyenne, là, comme Québécois, à peu près 15 tonnes de carbone par année.
Chacun.
Ouais. Puis la voiture, c'est 2,5.
OK.
Donc, faire ça, c'est un geste significatif. Ensuite, il y a de changer sa diète, de passer d'une diète avec beaucoup de viande, comme on a en Amérique du Nord, à végétarien. Ça enlève une tonne de carbone.
C'est quand même.
T'es rendu à 3,5 si tu fais les deux.
Oui, voilà. Puis celle qui est une deuxième de transport, si tu faisais le lien avec les vols, un vol transatlantique aller-retour, c'est 1,6 tonnes de carbone. Donc, de limiter ces vols.
C'est quand même important.
Ouais, au minimum.
Voyager plus local. Ouais.
Puis la dernière, en fait, elle est très controversée. Puis même si c'était dans la lettre des 15 000 scientifiques, elle touche la démographie. parce qu'évidemment, chaque être humain de plus émet ses besoins de ressources. Donc, dans cette étude, dans Science, ils disent, essayez de limiter votre nombre d'enfants, parce que chaque enfant supplémentaire, c'est 60 tonnes de carbone par année.
C'est
60 tonnes, c'est ça.
Exactement. C'est de mieux planifier les naissances. Ouais. C'est dire, on va planifier
ça. Après ça, c'est bizarre, parce que de l'autre côté, on nous offre des solutions techniques, puis là, il y a un enjeu moral, éthique. On sait, par exemple, juste la politique de l'enfant unique en Chine, quel type d'impact ça peut avoir. Mais il y a quand même une réflexion à avoir sur quel soutien on peut faire en termes d'éducation, de financement à cette réflexion de la démographie mondiale.
Merci infiniment, Jérôme Duprat. C'est toujours intéressant. Puis on est là. On ne veut pas être alarmiste ce matin. C'est la réalité. C'est l'état des choses.
Ce que je retiens, plus de char, plus de voyage, plus de viande, plus d'enfants. Voilà.
Ah non, t'es... Non, mais c'est plate si ça se conclut
oui,
même,
mais
on
non,
dirait.
Oui, mais non. Merci. Non,
c'est une réflexion sur ce sujet. Voilà.
Je trouve ça fascinant et fort intéressant. C'était une blague, Tammy, c'était une boutade.
En plus, Pat, il y en a deux pareils. Il pourrait en garder juste un, mais en tout cas...
En semaine, dès 5h25.
96.9.